Bon, eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau cercle de guérison en ligne. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Je crois que le dernier, c'était parce que j'avais lancé ça avec Sandrine. On avait lancé ça pendant le confinement parce que ben, les cercles de guérison, les soins chamaniques en présentiel à Nantes, bien sûr, s'étaient arrêtés. Même si on a essayé de continuer le plus possible, dès que ça a été possible, on le faisait. Je me souviens, on signait des papiers, etc., des autorisations pour que les gens puissent venir. Enfin, ça a été tout un sport. C'est pas si vieux que ça, mais voilà, ça nous paraît il y a une éternité. Et bah, quand c'était pas possible et que moi j'étais coincé en Autriche, là où j'habite, j'avais lancé ça en ligne. On en a fait quelques-uns. Je sais plus, Sandrine, combien on en a fait. On en a bien fait, peut-être pas une dizaine, mais
Non, peut-être pas, mais pas loin quand même,
pas
hein.
loin, hein, ouais, au moins
Ouais.
6-7. Et puis là, depuis quelques temps, depuis quelques mois, depuis qu'on a repris la formule de une fois par mois à Nantes, eh bien, j'ai pas mal de gens qui me contactent, qui nous contactent sur le site et qui habitent loin. Et quand je dis loin, c'est pas à 100 km, 200 km de Nantes, c'est des fois à l'autre bout du monde. Ça, c'est la magie d'Internet et qui voudraient. Voilà, vous n'êtes pas si loin que ça tous, quoique. Voilà, je ne connais pas tout le monde, mais Cathy, je sais par exemple que maintenant, tu es à un paquet de kilomètres de Nantes. Et voilà, il y a plein de gens qui me sollicitent et qui voudraient participer à ces cercles de guérison. Et voilà, c'est pour ça que je les relancé en ligne. En plus, voilà, ce voyage-là, moi, que je viens d'effectuer aux États-Unis, dans la réserve Navajo, dans la réserve Hopi, ça m'a encore plus motivé pour partager, parce que là je rentre, ça fait une semaine que je suis rentré. J'ai qu'une envie, c'est de partager avec tous les gens du cercle de Nantes tout ce que j'ai vécu, toutes les rencontres, toutes les expériences que j'ai vécues dans ces réserves amérindiennes. Et voilà, donc je suis très heureux, voilà, que ce premier cercle de guérison il ait lieu là rapidement. Voilà, Marie qui arrive, qu'il ait lieu rapidement, parce que voilà, j'ai plein de choses à. J'ai envie de vous partager plein de choses et puis j'ai envie de, voilà, que vous faire ressentir ce que j'ai pu vivre là-bas et tous les expériences, les transmissions, les enseignements que j'ai reçus sur ces terres. Alors, je dis sur ces terres parce que ce n'est pas que dans les réserves. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les Amérindiens, ils sont parqués dans des réserves, même s'il y en a qui vivent à l'extérieur. Il y a des réserves avec des frontières, mais ce n'est pas parce qu'on est en dehors de la réserve qu'on n'est pas sur des terres sacrées amérindiennes, puisque toute l'Amérique, si je puis dire, est une terre sacrée. Et donc, j'ai pu aller sur des sites sacrés, même hors des réserves. Ce que je ne savais pas, pourtant j'y étais allé, hein, il y a 15 ans. J'y suis allé au Grand Canyon. Et je ne savais pas que le Grand Canyon, en fait, était un site sacré pour les Navajos, pour les Hopis. C'est un, voilà, et il n'est pas dans une réserve, le Grand Canyon, il est à l'extérieur. Monument Valley, où je suis allé après, effectivement, est sur la réserve Navajo. Le Canyon de Chelly est sur la réserve Navajo. Chip Rock, cette montagne sacrée avec laquelle je vous inviterai à faire une méditation tout à l'heure, parce qu'elle est tellement puissante, elle aussi, elle est sur la réserve Navajo. La réserve Navajo, il faut savoir que c'est la plus grande réserve des États-Unis, mais ils ont des sites aussi à l'extérieur, et le Grand Canyon, chose que je ne savais pas, en fait partie. Quand on est blanc, je suis désolé de le dire, mais moi je suis blanc, hein, je suis pas, voilà, ils le voient tout de suite, les Amérindiens, que je suis blanc, ce n'est pas évident d'avoir accès facilement. Il faut montrer patte blanche. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pu discuter avec les gens, j'ai pu et très vite ils se sont rendus compte déjà que j'étais pas américain. Ça, déjà, c'était une clé pour rentrer, et que j'étais pas un touriste lambda, que ce qui m'intéressait, c'était pas simplement de prendre des photos, même si j'en ai pris, bien sûr, mais que voilà, c'était autre chose qui m'appelait sur ces terres sacrées. Et voilà, ça a permis à ce que les choses puissent se faire de manière relativement fluide. Si je reprends dans l'ordre, en fait, au mois d'octobre dernier, il y a un de mes maîtres, un chaman amérindien, Emao, qui était, euh, qui, qui, je pense, alors il nous a jamais vraiment parlé de ses origines parce que c'était pas son propos. Et Mao, c'était un chaman qui n'appartenait à aucune tradition. Il se vantait, il se vantait pas, mais il prônait le fait de découvrir sa propre tradition, celle qui provient de l'intérieur de notre cœur, celle qui correspond à qui on est en réalité, celle qui correspond à notre âme, si je puis dire. Et en fait, il avait coupé avec les traditions amérindiennes pour être un chaman qui il était vraiment. Donc, il nous a jamais vraiment parlé de ses origines. J'ai réussi à trouver par hasard son village de naissance dans la réserve Hopi. Donc, je pense qu'il était un Indien Hopi, mais c'est quelque chose dont il n'a jamais vraiment parlé. Et au mois d'octobre dernier, il nous a quittés. Il a quitté cette dimension. Il est décédé exactement comme il le voulait. Ça faisait des années qu'il le disait, qu'il voulait mourir debout, il voulait mourir vivant, qu'il voulait mourir en pleine cérémonie, et il a réussi. Il a réussi puisqu'il a organisé une retraite au Nouveau-Mexique, là où il habitait, en octobre dernier. Et pendant cette retraite, il a mené plusieurs cérémonies, dont une sweat lodge. Et dans cette sweat lodge, en fait, bon, il le savait, hein, qu'il partait, il le sentait. Ça faisait des mois que toutes ses publications, toutes ses vidéos, toutes ses conférences qu'il faisait, elles tournaient autour de la mort. Et en fait, voilà, il a mené cette sweat lodge, et pendant cette sweat lodge, il est passé de l'autre côté. Et tout en passant de l'autre côté, il a enseigné tous ceux qui étaient là de ce qu'il voyait, de ce qu'il traversait. Il a chanté lui-même sa propre oraison funèbre pendant qu'il est parti, parce que son esprit partait de l'autre côté et en même temps, il était encore là. Ça a dû être un moment extraordinaire. Moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais en même temps extrêmement triste parce que c'est pratiquement quelqu'un de ma famille qui est parti. Je le considérais comme ça. Et en même temps, j'étais tellement heureux qu'il ait cette fin-là et tellement fier d'être dans sa continuité, de quelqu'un de cette envergure qui est capable de décider de sa mort et qui est capable de décider d'enseigner, d'être autant dans la compassion et dans la transmission que jusqu'à ce qu'il soit inconscient, il a enseigné de ce qu'il voyait, de ce qui se passait dans ce passage. Donc, je suis extrêmement fier, extrêmement heureux de cet homme. Et peu de temps après qu'il soit décédé, j'ai vraiment eu un appel de ces terres, là où il était, au Nouveau-Mexique, et puis voilà, autour. J'ai vraiment reçu un appel de là. Et voilà, alors que ce n'était pas spécialement le moment, c'était pas. J'y suis allé. J'ai programmé d'y aller dès que j'ai eu. Dès que j'ai eu des finances qui se sont débloquées, j'ai fait en sorte de bloquer mon voyage pour y aller. Et voilà, je suis rentré depuis une semaine, j'y ai passé 3 semaines à voyager, voilà, sur ces terres sacrées, Grand Canyon, Monument Valley, le Canyon de Chili, Chip Rock, Sedona. En allant à Chip Rock, j'ai fait un saut donc au Nouveau-Mexique. Ça a été très émouvant de passer ne serait-ce que la frontière du Nouveau-Mexique où vivait Mao. Je suis pas allé, je me sentais pas d'aller jusque chez lui, mais en même temps je sentais bien qu'il était avec moi. Il m'est arrivé des galères dans ce voyage et surtout à ce moment-là. Et je me souviens, j'ai eu ma fille au téléphone qui connaissait Mao, qui a rencontré Mao. Elle avait 9 ans. J'ai commencé à l'emmener le voir à ses cérémonies. Elle avait 9 ans. Et on était en visio pendant que j'étais là-bas et elle me dit Oh, mais c'est bien, il s'occupe de toi, il t'a vu arriver, il s'occupe de toi. Même s'il n'est plus dans cette dimension, il te pousse encore dans tes retranchements, t'approches encore plus sa terre, il te pousse encore plus fort. Mais c'est super ça, de quoi tu te plains? Et c'est exactement, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, il y a plein de choses qui m'ont obligé à lâcher encore plus de lest. Voilà, je pourrais vous raconter plusieurs choses, mais voilà, il y a des choses précises que j'ai envie de partager avec vous. D'abord, mon expérience dans le Grand Canyon. J'y étais pourtant déjà allé, mais j'avais oublié à quel point c'était impressionnant et à quel point cet espace immense, tout en étant un lieu sacré, c'est pas le fait juste qu'il soit immense, c'est immense, c'est impressionnant, C'est un lieu sacré, il y a beaucoup d'esprits qui sont sur le lieu. C'est impressionnant, j'en parle pourtant souvent de ça, mais là je l'ai vraiment encore plus vécu, à quel point le fait d'avoir un espace quasiment sans limite devant soi, ça ouvre. Ça repousse les limites qu'on se met à l'intérieur. Vraiment, quand vous êtes dans un endroit comme ça, comme le Grand Canyon ou comme dans d'autres lieux, hein, il y a des lieux comme ça, quand vous êtes au sommet, dans les Alpes, quand vous êtes au sommet dans les Pyrénées et que vous avez un espace immense devant vous, ça ouvre. Ça ouvre le mental, ça ouvre la conscience, ça ouvre les limites. Une fois passé le côté impressionnant, j'ai pas mal marché au bord du canyon et je me suis assis. Je me suis assis longtemps dans un état de méditation et j'ai commencé par déposer mes fardeaux. Parce que dans un lieu comme ça, c'est aussi fait pour déposer ses fardeaux. Je savais que j'avais encore beaucoup de choses par rapport à ma famille, par rapport à mon histoire. De colère, de choses de deuil à faire, de choses comme ça, d'émotions, des fardeaux, de douleurs, même de douleurs physiques. Donc j'ai commencé par donner à la terre, en respirant, j'ai commencé par donner à la terre et au lieu tous mes fardeaux, lui confier tous mes fardeaux pour qu'il les transforme, pour qu'il m'en déleste, pour qu'il m'en débarrasse. Et ensuite, j'ai demandé à ce que j'y vois plus clair. Et au bout de... Alors, je suis resté longtemps, hein, je suis resté une bonne journée là. Et au bout d'un certain temps, vraiment, j'ai senti mon mental s'ouvrir, j'ai ressenti le détachement, j'ai ressenti que tous les êtres vivants de la Terre, aussi bien les gens que je connaissais pas que les gens que j'aime en tant qu'humain, en tant qu'Éric de la Fontaine, c'était les mêmes. C'était les mêmes et qu'il n'y avait pas de personnes plus importantes que d'autres, qu'il n'y avait pas les humains plus importants que les animaux, plus importants que les plantes, plus importants que les rochers. Il y a eu une espèce de paix intérieure comme ça, que tout était pas, que tous les êtres vivants étaient des êtres de lumière, que tous ils avaient le divin. Ça a l'air d'être des mots, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti à l'intérieur. Que tous ils avaient le divin en eux, que tous ils avaient l'esprit, qu'il n'y avait rien d'autre et qu'il n'y avait pas de raison qu'il y en ait des qui soient plus et d'autres qui soient moins. Et tout était égal. Comme dirait Don Juan, le maître de Castaneda, tout devenait sans importance. Mais pas, quand on dit sans importance, c'est pas que ça avait plus d'importance, mais que c'était tout pareil. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y avait un sentiment d'égalité entre moi et tout. Que j'étais là pour transmettre, et que dans le soin, puisque moi, ma mission sur Terre, c'est le soin, l'accompagnement, et que je pouvais aussi bien soigner des gens terribles, des gens qui m'avaient fait du mal. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vu ma mère à ce moment-là, et il n'y avait pas de différence entre les gens que j'aime, ma mère, les gens que je connais pas, les gens qui sont pleins de bienveillance et les gens qui sont pleins de malveillance. À ce moment-là, il n'y avait plus aucune différence. Ce lieu et cette mémoire avec les esprits des Amérindiens m'ont permis vraiment de... Je le savais ça intellectuellement, mais m'ont permis vraiment de le ressentir dans mon mental, dans mon émotionnel, dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose... Ouais, d'énorme et que je voulais vraiment partager avec vous parce que c'est précieux. C'est-à-dire que c'est pas que je ressentais plus, en même temps je ressentais plus rien et en même temps je ressentais plus que de l'amour. C'est exactement ça. Plus de colère, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus de ressentiment, plus d'amour individuel, plus d'amour, comment je veux dire, exclusif. C'était énorme ce moment dans le Grand Canyon. Après, ben voilà, quand je touchais ça et que je le ressentais, j'ai repris ma marche pour rentrer parce que j'étais quand même assez loin. Et en marchant, je me disais, parce qu'il y a mon mental qui était quand même pas loin, et mon mental sait quand même des choses, et mon mental me disait, oui, c'est merveilleux, mais te repose pas sur tes lauriers, ça va pas durer. C'est bien d'en être là. C'est un état dans lequel tu pourras y revenir, mais ça ne va pas durer. Tu es encore un humain, tu as encore du chemin à faire. Et effectivement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Mais c'est comme si quelque part, je connaissais maintenant le bouton pour appuyer. Et voilà, une fois que ça s'est évanoui, cet état. Le surlendemain, j'ai essayé d'aller appuyer sur le bouton et il fonctionne.
Super.
Fonctionne. Alors, il n'a pas l'intensité de ce que j'ai ressenti parce que je pense qu'il faudrait que j'y retourne ou que j'aille dans un endroit comme ça. Mais le bouton fonctionne. Donc, c'est quelque chose d'acquis et c'est un peu comme, vous savez, dans le chamanisme, ça se fait plus trop aujourd'hui, sauf dans certaines tribus, mais. Ça faisait partie de certaines traditions chamaniques où on prenait des drogues hallucinogènes pour se mettre dans un état de transe, de connexion avec la nature, de connexion avec les esprits. Et qu'en fait, le boulot, c'était d'ensuite de retourner à cet état de connexion, de cet état d'ouverture, cet état de voyance, cet état-là. Mais sans la plante. Et là, c'est exactement. J'ai eu l'impression de vivre exactement la même chose, c'est-à-dire que le Grand Canyon, les esprits qui étaient là, les rochers, les arbres, l'air, les faucons, les condors, parce qu'il y a des condors dans le Grand Canyon, les corbeaux, les écureuils, il y a plein d'écureuils, m'ont permis d'atteindre ça. Et quelque part, ils ont dit à mon mental, mon petit gars, il va falloir que tu te débrouilles ensuite tout seul pour refaire la même chose. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Voilà, donc ça, c'était vraiment un grand moment. Ensuite, je me suis rendu à Monument Valley. Monument Valley, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ces fameux paysages américains qu'on voit dans les westerns. Avec ces terres, ces roches rouges, ces montagnes-là, ces roches rouges. C'était magnifique. Là, j'étais vraiment dans la réserve Navajo. Là, j'étais encore plus près, je dirais, des sites sacrés, parce que cette vallée qui est beaucoup plus grande qu'on pense, elle est parsemée de petits lieux sacrés. J'ai même vu un endroit, une clairière. J'ai pensé à toi, Sandrine. J'ai vu une clairière de. Alors, j'ai pas eu le droit d'y aller parce que voilà, les Amérindiens, les Navajos protègent leur lieu. J'ai pas eu le droit d'y aller. J'étais à 50 mètres, je pense, de la clairière, mais je l'ai vu et j'ai ressenti que c'était. Ils nous l'ont pas dit, mais j'ai ressenti que c'était un lieu sacré, cette clairière. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et là, il y avait des arbres en cercle, juste à côté de la falaise. Et j'ai senti que derrière, il y avait une faille et je pense qu'il y avait une, il y avait une. J'ai senti qu'il y avait une source derrière. Et il y avait un esprit qui était là. Un esprit, comme dans le chamanisme, on appelle ça des alliés, un esprit de la nature, c'était un esprit de l'eau, un esprit de la source qui était là. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, plusieurs fois, j'en ai rencontré dans Monument Valley, dans le canyon de Chili. Et les esprits, à chaque fois que je les ai rencontrés, ils m'ont dit, on est là, tu nous vois. On te reconnaît, mais tu n'es pas fait pour travailler avec nous. Tu viens de l'Europe. Les esprits avec lesquels tu dois travailler, ils sont là-bas. Ils sont en Europe. Ils sont aux Canaries, là où tu avec ceux avec lesquels tu travailles déjà. C'est pas avec nous. On est là. On n'est pas agressif vis-à-vis de toi. On te reconnaît. On sait qui tu es. Mais pour l'instant, la terre d'ici n'est pas ta terre. Et nous, notre job actuellement, c'est pas de travailler avec toi. Donc ils m'ont pas repoussé, mais ils m'ont gentiment fait comprendre que j'avais encore à œuvrer en Europe et que j'avais à travailler avec les esprits des Guanches avec lesquels je travaille déjà actuellement, les esprits des Guanches qui sont aux Canaries, et que j'avais à continuer à travailler avec eux et que voilà, je vivais des étapes de transformation sur ces terres, mais que voilà, j'étais pas un Amérindien et que voilà, les esprits qui étaient là m'accompagnaient le temps que j'étais là, mais ne continueraient pas à travailler avec moi quand je serais rentré. C'était très comment dire? Ça m'a poussé dans l'humilité. Ça m'a vraiment poussé dans l'humilité de ressentir que voilà, là, ma place, elle est là. Ils m'ont vraiment montré où était ma place. Et que même si ma place pouvait être parmi eux un temps, l'œuvre que j'ai encore à accomplir, elle n'est pas avec eux pour l'instant. Mais c'était extra de tomber sur des esprits de la nature comme ça, aussi bien dans le canyon de Chelly que dans Monument Valley, qui me repoussent pas, mais qui me font bien comprendre des choses. Moi qui suis un amoureux de la compréhension, c'était chouette. Ce que je voudrais vous dire encore, j'ai encore, voilà, je vais essayer de garder du temps pour faire la méditation et le soin. Mais encore deux choses que je voudrais vous dire, deux choses que j'ai vraiment compris, acquis, intégré. Je sais, bon, il y en a certains qui sont là, je sais bien, parmi vous qui connaissent le processus des quatre étapes qu'on utilise beaucoup dans le chamanisme et qu'on utilise beaucoup au gardien du feu. Les quatre étapes, c'est ce qu'on utilise avant de faire n'importe quel processus, ou qu'on utilise avant de rentrer sur un lieu sacré, ou qu'on utilise avant de faire un soin, qu'on utilise avant de faire une méditation, qu'on utilise avant de faire un voyage chamanique. Les quatre étapes, l'ancrage, donc la connexion avec la terre, la prière à soi-même, connexion avec son cœur, la demande de protection, c'est-à-dire la connexion avec le ciel, et en quatrième étape, l'appel aux esprits, et en général, on appelle son esprit protecteur ou son guide à ce moment-là. Et jusqu'à présent, voilà, la plupart d'entre vous me connaissent bien et vous savez bien comment je fonctionne. On faisait l'ancrage, la connexion avec la terre, et ensuite on passait au cœur, et c'est là qu'on déclenchait le sourire intérieur pour sourire à son propre cœur. Et ensuite, avec ce sourire intérieur, on souriait au ciel et on demandait au ciel de faire descendre la lumière sur nous. Ça faisait les trois étapes. Et là-bas, je l'ai fait, bien entendu. Et les esprits du lieu m'ont fait une remarque qui m'a paru extrêmement judicieuse et quelque chose que je n'avais jamais remarqué. C'est que je déclenche le sourire intérieur à la deuxième étape. Et je fais la descendre la lumière, enfin, je demande à ce que la lumière descende du ciel. Et les esprits du lieu où j'étais, dans la vallée des dieux, j'étais dans la vallée des dieux à côté de Monument Valley. Et les esprits du lieu m'ont dit deux choses, alors que j'étais à la première étape, donc à l'ancrage, la connexion à la terre. Pourquoi tu souris pas à la terre? Pourquoi tu déclenches le sourire intérieur qu'à la deuxième étape et pas dès la première? Pourquoi tu souris pas à la terre? Et pourquoi la lumière ne vient pas, non, vient pas de la terre? La lumière, elle descend du ciel, mais elle vient aussi de la terre. Pourquoi tu laisses pas la lumière qui est contenue dans la terre monter en toi comme tu laisses la lumière du ciel descendre sur toi? ça m'a scié. Et je ne l'avais jamais vu comme ça.
Révélation.
Complètement. Donc, j'ai fait mes excuses à la Terre. J'ai tout recommencé du début. J'ai déclenché le sourire intérieur d'abord. J'ai fait mon ancrage en souriant à la Terre. J'ai laissé la lumière de la Terre monter dans mon corps. J'ai souri à mon cœur. Et ensuite, j'ai souri au ciel et j'ai laissé la lumière du ciel descendre. La lumière du ciel et la lumière de la Terre sont aussi importantes l'une que l'autre et doivent s'unir en nous. Et on m'a vraiment pointé ça du doigt. Pas sous forme de reproche. Ce n'était pas un reproche. C'était plus mais pourquoi tu fais comme ça? C'était vraiment ça. C'était ouais, j'avais l'impression d'un esprit bienveillant qui était là. Mais
C'est pas
pourquoi tu fais comme
logique.
ça? Mais t'as pas l'impression que tu passes à côté de quelque chose? Ça a été une révélation qu'en fait, effectivement, et une fois branché sur la Terre, mais effectivement, il y a tellement de lumière dans la Terre aussi. Et pourquoi on sourirait pas, on donnerait pas autant d'amour à la Terre qu'on en donne au ciel? Donc voilà, je vous donne mon nouveau processus des quatre étapes qui a évolué. Et puis, avant qu'on passe à la méditation, je voudrais encore vous parler d'une chose parce que j'ai un petit peu changé mon programme. Parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ne s'est pas passé évidemment comme je pensais. Et c'est bien parce qu'en fait, je n'avais pas du tout prévu d'aller au Nouveau-Mexique. Je pensais rester en Arizona. Je n'avais pas du tout prévu d'aller au Nouveau-Mexique. Je pense que j'avais peur d'aller au Nouveau-Mexique puisque c'est l'état où vivait Emao, mon maître. Et je comprends, une fois que j'ai eu mis les pieds là-bas, j'ai compris pourquoi j'avais eu peur. Et puis, en fait, il s'est passé une journée, enfin, il est arrivé une journée où je me suis rendu compte que j'avais rien à faire. Et puis, j'avais repéré une montagne sacrée, Cheap Rock, qui est côté Nouveau-Mexique, mais vraiment tout près de l'Arizona. J'ai regardé sur Google Maps et j'ai vu que ce n'était pas si loin, que c'était, je crois que c'était 2 heures de route, ce n'était pas très loin. Alors j'ai décidé d'y aller par la route la plus courte. J'ai vu qu'il y avait sur le plan une route courte. Plutôt que de faire un grand tour, j'ai fait la route la plus courte. Et là, à un moment, je me retrouve face à un mur de montagne. Je me suis dit par où je vais passer. Et en fait, il y avait un col. Et en montant ce col, je me suis retrouvé dans la neige, dans la glace, avec une voiture de location qui n'avait pas de pneus neige. Donc, j'ai pas été fier du tout. Voilà, donc ça a bien commencé ma journée. Voilà. Alors, au début, c'était magnifique. Et puis, quand j'ai commencé à voir la neige, la neige, la neige, la neige, oh là là, je me suis dit, comment je vais m'en sortir? Donc, j'étais accroché à mon volant. Heureusement que je n'ai pas croisé beaucoup de monde parce que je roulais au milieu pour ne pas partir dans les fossés. Mais j'ai vraiment eu l'impression que c'était une mise à l'épreuve. Et puis, arrivé au col, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Arrivé au col, je me suis garé parce que j'avais besoin de re faire reposer mon système nerveux qui en avait pris plein la gueule. J'ai vu cette fameuse montagne au loin. Et cette montagne, en fait, il y a une plaine. Je vais vous la montrer parce qu'on va faire la méditation avec elle. Il y a une plaine où il n'y a rien. Plate. Il n'y a rien. Et au milieu, il y a comme un château. On a l'impression qu'il y a un château. De loin, on a vraiment l'impression que c'est un château. J'avais l'impression de voir Camelot en plein milieu de la plaine avec rien autour. Et c'est cette fameuse montagne sacrée, chez Proc, qu'on n'a pas le droit d'escalader, qu'on n'a pas le droit d'approcher. Un peu comme le mont Kailash des bouddhistes au Tibet, dont on fait le tour, mais sur lequel il est interdit de monter parce que c'est une montagne sacrée. C'est un peu l'équivalent chez Proc. On dirait un château. Et de loin, donc, à mon avis, peut-être pas 100 km, mais pas loin, on la voit. Et elle est magnétique. Alors, je ne sais pas s'il y a de la magnétite dedans, mais même à des centaines, à une centaine de kilomètres, une présence extrêmement forte. Je vais vous la montrer après. Une présence extrêmement forte et elle m'a percé le cœur, cette montagne. Percé le cœur dans le bon sens. Pas percé le cœur, celui qui bat, mais percé mes blindages qu'on a tous, hein, parce que comme on a souffert dans notre vie, on a eu des blessures, on a vécu des choses difficiles, des traumatismes. Voilà, on a été malheureux, on a eu des blessures d'amour, etc. Donc on a mis des blindages par-dessus notre cœur pour éviter de ressentir notre cœur, pour éviter de ressentir la souffrance. Et même de loin, je sentais, quand je regardais la montagne, qu'elle perçait ce blindage et qu'elle allait toucher la vulnérabilité de mon cœur à l'intérieur. Et plus j'approchais, plus c'était fort. Et il a fallu un moment que j'étais très près. Je m'arrête sur le bas-côté. J'avais pris des photos à ce moment-là. Je me suis arrêté sur le bas-côté et il a fallu un temps pour que je pouvais plus respirer. Il a fallu un temps pour que je laisse l'esprit de la montagne finir ce qu'elle avait à faire au niveau de mon cœur avant de pouvoir continuer parce que ça devenait invivable. Et quand j'ai préparé ce cercle-là tout à l'heure, j'ai retrouvé une des photos de cette montagne où on voit vraiment, on voit et on ressent. J'ai pris dans toutes les photos que j'ai pris une où on le ressent vraiment. C'est pour ça que je voudrais faire la méditation avec elle tout à l'heure, avec vous, pour que voilà, vous partagiez aussi. Alors j'ai hésité, soit je vous faisais faire le Grand Canyon, soit je vous faisais faire Chip Rock. Je pense que Chip Rock, c'est encore tellement plus. C'est une autre force, mais voilà, pour aller vous connecter beaucoup plus à votre cœur, Chip Rock, elle est vraiment faite pour ça, cette montagne. Je comprends pourquoi Emao vivait pas très loin de cette montagne. Alors, j'ai pas avancé plus avant dans le Nouveau-Mexique parce que dès que j'ai eu passé la frontière, j'ai eu beaucoup d'émotions. Peut-être parce que déjà Chip Rock m'était en train de m'exploser mes blindages du cœur. Et puis, bah, voilà, de me rapprocher de là où était Mao, j'ai vraiment senti que c'était fort. Et voilà, il y a des lieux comme ça. Tous les lieux sacrés que j'ai pu, sur lesquels j'ai pu aller, ils sont tous différents. Je ne peux pas comparer cet endroit-là à Stonehenge, par exemple, ou à d'autres endroits où j'ai pu aller, des endroits extraordinaires. Chacun a des. C'est comme des outils différents, chacun a des propriétés différentes. Bentayga, qui est mon lieu aux Canaries, Stonehenge, qui est en Angleterre, ou Chip Rock, le Grand Canyon, Monument Valley. Ils ont tous, comme différentes plantes médicinales, ils ont tous des propriétés différentes. Et tous, ils nous touchent d'une manière différente. Et tous, ils nous amènent plus loin dans le processus pour être qui on est, plus loin dans le processus pour élaguer le mental et se rapprocher du cœur. Et Chip Rock, cette montagne, ça a été vraiment extrêmement puissant. J'y suis resté un moment. Alors, je ne pouvais pas approcher, malheureusement. Puis voilà, j'avais pas envie J'aurais pu, parce qu'il n'y avait pas de garde. Enfin, j'ai rien vu. Mais bon, voilà, j'ai suffisamment de respect pour la culture des Amérindiens et pour les sites sacrés, pour ne pas franchir quand il y a des cerfs qui ont été mis en place. Voilà, je n'allais pas le faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais de là où j'étais, voilà, j'étais assis dans ma voiture parce que dehors, il y avait un vent. Vu que c'est une plaine où il n'y a pas d'obstacle, il y avait un vent terrible. Donc, j'étais assis dans ma voiture, je m'étais garé sur le bas-côté face à la montagne. J'ai dû rester une bonne heure. Le temps que l'ouverture au niveau du corps finisse de se faire et que voilà ça devienne enfin léger parce que avant de devenir léger ça a vraiment tiraillé dans mon thorax pour que ça s'ouvre plus encore pour ceux qui me connaissent plus encore mais ouais c'est un endroit où j'aurais vraiment envie de retourner et puis d'emmener des gens si possible et de trouver un guide Navarro qui puisse nous emmener plus près. Parce que je sais que ça existe, mais là, j'étais pas organisé, puisque je devais pas, j'étais pas prévu que j'y aille. Mais bon, un lieu hors du commun qui n'est pas si connu que ça, mais vrai, qui mérite le détour. Et Voilà, c'est pour ça que je voulais partager avec ça. Je voulais partager ça avec vous, pardon. Et bah, je voudrais, voilà, je voudrais utiliser voilà, la photo que j'ai retrouvée pour faire un genre de méditation guidée avec vous, vous accompagner avec cette image. Je propose que je mette un peu de musique aussi. Vous accompagner pour que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti, même si vous n'êtes pas sur place. Voilà, j'ai regardé la photo tout à l'heure, on le sent vraiment avec la photo. Vous accompagner dans une connexion avec cette montagne et surtout de vous accompagner plus profond dans votre cœur. Voilà, c'est vraiment ce que je vous propose dans ce cercle de guérison ce soir, c'est de faire ce qu'on appelle dans le chamanisme la méditation contemplative avec cette photo. Et puis de voilà de moi j'ai fait mon hôtel avant qu'on commence de manière à voilà vraiment pouvoir vous accompagner avec mes outils, de vous aider à ce que voilà l'ouverture se fasse et que grâce à cette méditation et grâce à ce soin chamanique à distance, vous puissiez aller plus loin dans votre cœur, faire fondre les blindages qui vous empêchent encore d'accéder à la sensibilité, puisque en fait le cœur, notre cœur, il est extrêmement sensible, il est extrêmement vulnérable, il est extrêmement tendre. C'est extrêmement, oui, c'est de la tendresse votre cœur en fait. C'est pour ça qu'on se blinde dès qu'on a des débuts de blessure quand on est enfant. On le blinde parce que on veut le protéger. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. Ce que moi, je voulais surtout vous dire, c'est que à un moment, quand on est dans ce genre de processus, on pose des intentions. On pose des intentions pour que notre vie change, pour qu'elle se rapproche de l'esprit, de la spiritualité, pour que notre cœur se libère, pour qu'on soit enfin heureux, pour qu'on soit plus dans la souffrance. Il y a des moments dans la vie où on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça sert à rien. Parce que ça fait partie du processus. Mais le changement, c'est pas notre tête qui va le faire. Il y a un moment, notre intention, elle va porter ses fruits et notre histoire, notre personnalité, notre identité va se mettre en retrait par rapport à l'esprit, par rapport à notre cœur. C'est perturbant d'ailleurs à ce moment-là parce que quelque part, on a l'impression de perdre le contrôle. Mais pour que ça agisse, pour que votre intention de vous rapprocher de la spiritualité et de votre cœur fonctionne, pour que, un mot qui est à la mode, pour que le lâcher prise puisse avoir lieu, il faut que vous mettiez votre confiance, non pas dans votre tête, mais que vous mettiez votre confiance dans votre cœur, que vous mettiez votre confiance dans cette étincelle divine que vous avez à l'intérieur de votre cœur et qui vous guide. Et qui vous guide. C'est encore plus facile pour les femmes parce que vous êtes plus proche de votre intuition que les hommes. Vous êtes plus proche de votre émotionnel. Bon, il y a des hommes. Les hommes qui sont là ne sont pas concernés parce qu'ils sont quand même vachement féminins, les deux avec, et puis moi qui sommes là. Mais voilà, quand on est proche de son intuition, c'est plus facile parce qu'on sait qu'on peut avoir confiance dans notre intuition, et l'intuition, elle vient de l'esprit, elle vient du cœur. Elle vient pas du mental, elle vient pas de la tête. Et si vous placez votre confiance dans votre intuition, si vous placez votre confiance dans l'esprit avec un grand E, pas dans l'esprit, pas dans l'intellect, hein, mais dans la partie spirituelle, dans l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de vous, et que vous allez dans des lieux comme ça, et que vous avancez dans votre vie avec cette confiance-là, avec cette intention de vous rapprocher de votre cœur et que votre vie se transforme pour être le reflet de votre cœur, ça va avoir lieu. C'est la clé. Enfin, c'est la double clé. L'intention et la confiance. Vous placez votre confiance là, ça vous aidera quand vous serez confronté au lâcher prise. Parce que tout le monde veut lâcher prise, mais personne veut lâcher le contrôle. Donc, si vous placez votre confiance dans votre cœur, dans l'esprit, dans votre étincelle divine, quand vous en serez rendu au moment du lâcher prise, ça vous aidera. Voilà tout ce que je voulais, hein, tout ce que je voulais partager avec vous. Bon, il m'est arrivé plein de choses, hein. Je pourrais passer la nuit à vous
Oui,
parler de tout ce que j'ai vécu, mais ouais, vraiment, je vous ai transmis l'essence de ce que je ramène de ces 3 semaines dans les terres sacrées amérindiennes. Et voilà, je suis très heureux d'avoir pu passer un peu plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Et puis, comme c'est voilà, la reprise de ces cercles de guérison en ligne, voilà, là, c'est la première. Et puis, je trouvais super d'y consacrer voilà, de faire le sujet sur les enseignements des terres sacrées amérindiennes, puisque j'en reviens. Mais voilà, on va continuer. Et voilà, maintenant, il y a un autre cercle de guérison qui est prévu le mois prochain. Il y en a un autre. Alors, ça ne double pas ceux qui sont en présentiel, parce qu'on vous voyez comme ceux qui viennent aux deux, vous vous rendez compte que ce n'est pas la même chose. Mais voilà, c'est pour ceux qui sont loin. Mais bon, voilà, il y a un autre qui est prévu le 21 mai prochain où je vais parler d'un sujet dont on n'arrête pas de me parler, qu'il y a tellement de gens qui veulent que j'intervienne là-dessus. J'ai l'intention de vous parler des animaux totems avec une lecture particulière qui est la mienne, en fonction de tous les enseignements que j'ai reçus. Et puis, il y en a un autre de prévu au mois de juin. Je pense qu'on fera une pause juillet, peut-être juillet-août, mais voilà, on a vraiment l'intention avec les gardiens du feu de reprendre ces cercles de guérison en ligne pour que voilà pour toucher plus de monde et puis que voilà, il y ait des gens même quand ils habitent loin, ou même quand ils sont partis de Nantes, n'est-ce pas? Qu'ils
Oui,
puissent continuer de nous
ah
suivre.
bah oui, c'est génial, c'est
Ouais.
génial. Merci, merci.
Donc voilà, n'hésitez pas à revenir si ce format vous a convenu. Voilà, messieurs, dames, j'étais très heureux de
Merci
partager cette soirée avec vous.
Merci beaucoup. Merci,
J'espère que ça vous a plu, vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions par la suite, vous n'avez pas osé forcément poser tout ce soir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ce soir, demain, après-demain. Voilà. Merci
Salut
beaucoup à vous
Michel,
tous, à vous toutes.
bonsoir.
Je vous souhaite une
Merci.
excellente soirée.
Bonne soirée.
Laissez
Merci. Merci à vous aussi. Bonne soirée.
les terres sacrées
Merci.
continuer d'œuvrer avec
Oui.
vous, en vous.
Et
Voilà,
Marie.
je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci à
À
vous
très
tous.
bientôt.
Merci
Merci
beaucoup.
beaucoup. Ok, merci
Bientôt.
beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Je vais te demander.